Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. J'espère que ça se passe bien dans votre vie. On salue tous les gens qui sont en semaine de relâche et on a une bonne pensée pour tous ceux qui, comme nous, travaillent. On va se réchauffer le cœur ensemble ce matin avec plusieurs sujets qu'on va aborder. On va parler de compagnies de tabac là, dans les prochaines minutes qui sont, vous l'avez vu, sans doute condamnées à verser des milliards à environ 100 000 fumeurs québécois. Évidemment, la première chose que tout le monde qui fume a fait ou qui ont fumé ont fait, c'est de savoir, attends, peux-tu faire partie du recours collectif? Bon, mon chum qui a arrêté de fumer il y a très longtemps, s'est mis à compter les cigarettes qu'il avait fumées dans sa vie. Il s'est dit, hey, je pourrais être dedans. On va parler de ça dans deux minutes. Je veux toutefois vous dire que vous avez été très nombreux à réagir au témoignage de Bruno Serre, vous savez, le père de Brigitte Serre qui a été assassinée en 2006. Son meurtrier demandait la semaine dernière à avoir des permissions de sortie. On vous a raconté là, qu'il avait eu le temps de faire 3 diplômes en prison depuis le temps. Il s'est même marié récemment et il a accès à la fameuse roulotte où on peut avoir des rapports de proximité avec ses proches. Et là, il voulait des sorties plus régulières. Ça lui a été refusé toutefois, mais ce témoignage-là de Bruno Serre, ce père très affecté forcément par la mort de sa fille dans des conditions atroces, vous a beaucoup touché. Et aujourd'hui, on entendra tout à l'heure le cri du cœur d'une mère dont la fille aussi a été assassinée par son ex-conjoint. Vous savez, c'est un vrai problème, les meurtres de femmes au Canada, en particulier au Québec. Il y en a toujours au moins une quinzaine par année, puis c'est comme ça, c'est stable. On dirait que c'est une espèce de fléau qu'on n'est pas capable de circonscrire. On aura le témoignage de cette mère qui vient d'ailleurs d'enterrer sa fille. On aura également dans un registre plus joyeux une jeune Québécoise championne du monde de boxe et c'est une page dans l'histoire de la boxe au Québec. Sincèrement, j'ai très hâte de vous la présenter. Je vous parlais de fumeurs, bien, vous l'avez vu, ce recours collectif, hein, la Cour du Québec, la Cour d'appel a confirmé vendredi dernier cet important jugement. On parle de 3 grandes compagnies de tabac qui devront verser, puis là les montants évidemment, ça peut, vous avez peut-être entendu 15 milliards, 17 milliards, avec les intérêts là-dedans, ça peut monter un peu plus que ça. Toujours est-il que ça touche 100 000 fumeurs québécois qui ont développé un cancer de la gorge ou des poumons ou de l'emphysème à cause de leur dépendance à la cigarette. Donc, ça vous prend un de ces cancers-là pour être capable de prétendre avoir un peu droit à quelque chose. C'est une bataille qui date pas d'aujourd'hui, ça fait tellement longtemps que ça dure. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut leur dire aujourd'hui, c'est pas terminé. La grande question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que, d'après vous, les compagnies de tabac vont vraiment payer? C'est ça la question. Est-ce qu'elles vont finir par verser des milliards tel que demandé aux fumeurs? Est-ce que vous y croyez? Ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de moyens. C'est ce qu'on va voir. En attendant, je vous présente le témoignage de Lise Blais. C'est la femme de Jean-Yves Blais qui est à l'origine du recours collectif. Bonjour, Lise.
Bonjour.
Ça fait très longtemps. Le premier rapport médical de l'Hôtel-Dieu de Montréal de votre conjoint, ça date de 1997. Je relisais ça. Ça fait donc tellement longtemps. Ça fait plus de 22 ans. Votre mari, malheureusement, a eu le temps de mourir. Ça fait 7 ans qu'il n'est plus là. Oui. Quand vous regardez tout ça, Lise, vous êtes tellement battue. Est-ce que vous y croyez que les compagnies vont finir par payer?
Moi, j'y crois jusqu'en dernier. Moi, je ferais tanner jusqu'en dernier. Puis oui, j'y crois. Il faut.
Oui. Rappelez-moi un peu l'histoire de Jean-Yves, votre mari, parce que c'est lui qui était à l'origine de ce recours collectif. Il souffrait d'emphysème. Il a été très, très, très malade, là.
Oui, mais il a eu le poumon coupé aussi à l'hôpital par le docteur Lafontaine. Et puis c'est le docteur Lafontaine puis lui qui ont jacassé de ça et puis qui ont parti ça en même temps, là. Le docteur Lafontaine trouvait que ça valait la peine de parler de ça, là, que la fumée, la cigarette, c'était pas bon. Surtout des années 50 et 60, c'était pas dit clairement, c'était mensongé, puis c'est des cachettes tout le temps, des compagnies.
Mais à l'époque, en fait, personne ne le savait que la cigarette tuait. Aujourd'hui, on le dit, fumer tue, mais à l'époque, votre mari, il a commencé à fumer, il est natif de l'Abitibi, il a commencé à fumer, il avait 8 ans.
8-10 ans, oui.
Puis il fumait beaucoup, là. C'était un paquet et demi.
En dernier, c'était 2 gros paquets et demi.
Wow.
Puis, c'est ça, en dernier, même, il n'était plus capable de manger non plus. C'était effrayant, il tombait sans connaissance à tout bout de champ. Puis, il ne voulait pas nécessairement aller à l'hôpital. Il voulait rester à la maison. Puis, mais on en prenait soin quand même. Là. Puis même, comme je vous dirais, que quand il est parti, j'avais promis de le garder à la maison. Alors, j'ai emmené l'urne à la maison. Fait qu'il est toujours avec moi, toujours.
Oui. Souvent, les compagnies de tabac, pour leur défense, vont dire, écoutez, nous, on vend un produit, on n'est pas responsable de ce que les gens en font. On n'a quand même pas mis les cigarettes dans la bouche des gens. Vous, dans le cas de votre mari, Jean-Yves, il a tenté d'écraser plusieurs fois. Il a essayé d'arrêter de fumer.
Oui, oui. Au moins trois fois. Puis je sais que la dernière fois, là, on était en voyage et puis... on a arrêté pour un repos, puis il est allé au dépanneur, puis quand il est revenu, il dit, ah, le paquet, ils sont rendus tellement gros, tellement gros. Puis je dis, voyons donc, ça n'a pas de sens, là, tu sais, c'est pas vrai, là, tu sais. Mais c'est ça, là, je savais que le lendemain, il y en aurait un dans ses poches.
Tellement gros parce qu'il voyait juste ça, là, il était...
Ah oui.
Et c'est tout l'élément, d'ailleurs, qui fait sans doute partie du record collectif aussi, tout l'élément de... comme quoi la cigarette est extrêmement... c'est difficile d'arrêter, en fait. Il y a encore toujours à peu près 18 % des gens qui fument au Québec parce qu'ils ont de la misère. Il y en a beaucoup là-dedans qui voudraient, puis je pense que les gens vont nous appeler pour le dire. On veut arrêter de fumer, mais on a donc de la misère.
Ils sont esclaves de ça. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je dis que ils expliquent pas tout. Ben là, aujourd'hui, je sais pas, mais dans le temps, ils expliquaient pas tout comment c'était... fait la cigarette et puis tout, et on n'avait pas... C'est des mensonges, c'était démentri tout le temps. Là,
ouais. Avec moi, vous me permettrez, Lisbeth, de présenter Mario Bugeaud, qui est conseiller stratégique au Conseil québécois sur le tabac et la santé. Bon, bonjour, Mario.
Bonjour, madame.
C'est une cause aussi que vous suivez depuis très longtemps, bien sûr, au Conseil québécois sur le tabac et la santé. Aujourd'hui, on le sait, hein, que ça tue, mais ça fait pas si longtemps quand on regarde ça. Là.
Ben, en fait, c'est ça le fond de l'histoire, mais les compagnies le savaient aussi il y a très longtemps, il y a très, très longtemps. En fait, dans les années 50 et 60, comme vous en parliez tantôt, alors que la population en savait peu et avait vraiment une connaissance assez limitée des risques associés au tabac, les compagnies, elles, le savaient très bien et on l'a prouvé lors du procès par des documents qui ont été déposés en preuve, des documents qui étaient supposément confidentiels et internes aux compagnies de tabac, mais qui sont devenus tout à coup publics dans ce procès-là et qui démontraient, en fait, qu'elles le savaient. C'est toute la question qui est reliée à ce dossier-là aussi en lien avec la responsabilité des compagnies d'informer adéquatement leurs clients des risques qu'elles connaissent en lien avec la consommation de leurs produits. C'est un enjeu central dans ce procès-là, puis c'est une des raisons pour lesquelles les juges ont condamné les compagnies à verser ce qu'elles doivent verser aux fumeurs.
Philippe Trudel est avocat chez Trudel Johnston et L'Espérance qui gère ce fameux recours collectif. Merci d'être là, Monsieur Trudel. Justement, c'est les malversations ont fait pencher la balance. Ce que vient de dire Mario Bugeaud, c'est-à-dire que les tabaculteurs, les compagnies qui vendent ce produit-là étaient très au fait de l'impact de ce produit sur la santé des gens, mais on fait comme si... On fait comme si ça n'existait pas. Excusez pour ça. J'ai hors de mon contrôle. Il se passe des affaires des fois. Oups. Donc je reviens à ma question. Est-ce que c'est pas mal au centre de votre thèse là devant les tribunaux?
Oui, en fait, la thèse n'était pas seulement le fait que les compagnies de tabac n'informaient pas adéquatement les consommateurs, mais en plus ils désinformaient.
Il disait le contraire. Il disait non, c'est pas vrai que ça vous tue. Ouais.
Oui, il semait le doute. Il disait c'est pas certain, ça prend plus d'études, on n'est pas encore, la science n'est pas encore assez avancée. Un peu la même technique qu'on a entendue avec les changements climatiques. Là, c'est la recette, c'est les compagnies de tabac qui l'ont inventée. Alors, de conspirer pour désinformer les membres du public, c'était effectivement la thèse centrale du recours collectif. Et c'est allé jusqu'à... M. Bugeaud mentionnait que les compagnies de tabac étaient bien informées des risques, du danger, notamment le danger de dépendance, qui est probablement le risque le plus élevé dès les années 50 et 60. Mais une fois que les gouvernements ont commencé à s'intéresser à elles et à leur poser des questions, ils sont allés jusqu'à détruire des études scientifiques qui démontraient, qui prouvaient hors de tout doute, qu'elles étaient au courant des risques. Alors, d'un côté, elles sont très au courant. De l'autre côté, elles disent « c'est pas certain ». Puis, en met une autre couche avec la publicité et des styles de vie. On dit « on présente le produit comme étant quasiment... » On l'associe à des gens en santé, on l'associe à...
À du plaisir de vivre aussi.
Etc. Alors, c'est ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. C'est un message qui le message de santé arrivait brouillé.
Ça fait combien d'années que vous avez lancé ce recours collectif?
Ça fait 20 ans, en 98.
Voilà. Ouais. Donc, ça a pris 20 ans pour aboutir. Puis là, on dit aboutir, on le dit vite parce que c'est pas fini du tout. Il y a déjà deux des trois compagnies de vendeurs de tabac, de manufacturiers de tabac qui ont dit qu'elles voulaient poursuivre la bataille. Ça va peut-être se ramasser en Cour suprême. Vous pensez quoi, vous, par rapport à tout ça?
Ben nous, c'est pas une surprise, dans le sens que quand on a démarré le dossier, on savait que ça allait être très long, puis il allait utiliser tous les moyens pour faire traîner les choses, puis il allait aller jusqu'au bout. Mais je vous dirais, pour prendre une image, si on court un marathon, ben on est rendu pas mal près de la ligne d'arrivée. On est au kilomètre 39-40. Il reste plus beaucoup de tours de piste à faire.
Mais les compagnies ont beaucoup de souffle.
Oui, elles ont beaucoup d'argent, beaucoup de souffle, mais on les connaît bien.
Les gens qui ont fumé en ont moins.
Oui, tout à fait. Et ça, c'est malheureux. C'est le côté où on ne peut pas se réjouir. La longueur des procédures a fait en sorte que beaucoup de membres du recours ne sont plus là. C'est les successions qui sont intéressées. Quand on pense au cancer du poumon, le taux de survie est quand même pas très élevé. Hein. 80 % des gens vont mourir à l'intérieur des 5 ans du diagnostic. Alors, c'est dramatique. Et malheureusement, la longueur des procédures a fait en sorte que c'est pas tout le monde qui va pouvoir profiter d'une indemnité qui compense pas pour la souffrance et la mort.
Oui. Lise Blais, quand vous entendez justement l'avocat du recours collectif, quand vous entendez Mario Bugeaud du Conseil québécois sur le tabac et la santé, 20 ans plus tard, vous y croyez toujours, vous avez dit, en même temps, c'est pas fini, là.
Non, c'est pas fini. C'est sûr qu'on n'abandonnera pas, on ne laissera pas ça gagner là, sur l'autre côté.
Avez-vous encore du souffle, vous, pour...
Oh oui. J'en ai pour mon mari aussi.
C'est vrai, oui. Vous n'avez jamais fumé, vous, Lise?
Non.
Même si vous savez que la fumée secondaire, c'est pas très bon. Hein? À côté de votre mari, là, il devait vous fumer ça pas mal à côté aussi. Là.
Oui.
Puis dans la voiture, les portes fermées, les fenêtres fermées.
Oui, c'est ça. Mais il ouvrait quand même un peu. Là, mais c'est sûr que j'ai respiré, mais j'ai jamais fumé comme tel.
Oui. Vous n'avez jamais inhalé, c'est ça. Est-ce que vous avez vous-même essayé de le convaincre d'arrêter de fumer?
Ben oui.
Puis c'était difficile.
Oui. Puis mon père aussi, parce que mon père n'a jamais fumé, puis il était toujours contre ça. Je m'en souviens quand on allait chez mes parents, après qu'on partait, il ouvrait les fenêtres partout. Mais c'est ça, là, non, ça c'est... On trouvait ça dommage qu'il fume. Même mon fils Martin, notre fils Martin, Jean-Yves et moi, il a chicané souvent son père aussi. Il voulait pas arrêter. Ben, il voulait arrêter, mais il n'était pas capable. Puis Martin disait, ben oui, t'es capable. Puis,
C'est difficile hein, de convaincre les gens qui fument depuis très longtemps d'arrêter de fumer. Et puis je pense qu'il y a aussi toute cette nouvelle génération qui trouve que la cigarette est attirante. Puis avec la marijuana devenue légale, la fumée est beaucoup plus présente aussi. Il y en a qui se mettent à fumer la cigarette alors qu'ils ne fumaient pas non plus. Vous pensez quoi par rapport à tout ça?
Ah, ça, quand le cannabis et ces choses-là ils ont sorti, là, j'étais découragée. J'ai dit, oh non, dis-moi pas qu'il y a encore quelque chose là-dessus là, qui se passe, là, tu sais, là. Ils n'ont pas vu assez. C'est sûr que les jeunes trouvent que c'est plaisant, là. Ça, je sais pas, là, mais moi, je pourrais. Quand j'en vois un, je pourrais le pousser pour qu'il tombe puis qu'il s'en rappelle.
Ouais. Vous avez envie de leur faire un peu la leçon là-dessus. Merci beaucoup, Lise Blais. Ça vous fâche. Hein? Merci, Lise.
Ça m'a fait plaisir.
Merci bien. On va s'arrêter ici. Mais Lise nous transmet un peu toute la difficulté d'arrêter de fumer. Puis je sais que vous êtes nombreux à nous écouter puis qui essayez depuis des années. Puis c'est difficile parce qu'effectivement, c'est une dépendance beaucoup nourrie par la publicité. Remarquez qu'aujourd'hui, c'est moins pire que c'était. Je vous rappelle qu'avant, on a eu des circuits de courses automobiles où il y avait des... Hein, avant, là, c'était ça, là, c'était Dumouriez. Il y a eu des équipes sportives. Il y a eu tellement de... C'était des commanditaires fabuleux, les compagnies qui vendaient du tabac, parce que c'était associé à la joie de vivre, à un rythme de vie effréné, à la vitesse, au bien-être. C'était in, tu fumais. C'est encore un peu comme ça chez les jeunes. On voit que il y a peut-être un nombre de fumeurs qui diminue, mais les jeunes, eux, aiment la cigarette. Il y a toutes sortes de produits qui sont inventés pour les attirer. J'aimerais faire appel à vous. D'abord, je vais vous demander, est-ce que vous croyez que les compagnies de tabac qui ont été condamnées à verser des milliards aux fumeurs vont finir par payer parce qu'elles ont l'intention de poursuivre la bataille? Et tous ceux qui nous écoutent et qui ont donc de la misère à arrêter de fumer, on voudrait vous entendre là-dessus. Pourquoi c'est si difficile d'après vous? Puis est-ce que vous êtes parmi les 100 000? Avez-vous compté vos cigarettes? Ça en prend 86 200. Comptez-les pour la fin, vous allez voir. Ça fait 12 ans de consommation de cigarettes, à peu près. 87 600, c'est ça. 1-866-790-9850, 514-790-9850 pour nous joindre. On vous demande ce matin, est-ce que vous pensez que les compagnies de tabac qui viennent d'être condamnées à verser des milliards aux fumeurs québécois vont finir par payer? Ça fait plus de 22 ans que la lutte est menée, puis c'est souvent la stratégie de ceux qui sont poursuivis, c'est de faire durer le temps, puis de se dire, ben pendant que ça dure, on en perd une coupe, ça nous coûtera moins cher en bout de ligne. Évidemment, les frais d'avocat sont importants, mais c'est des compagnies qui ont tellement d'argent que c'est un petit détail finalement. Quoique dans ce cas-ci, ça fait quand même plusieurs dizaines de milliards. Ça doit t'écorcher un peu quand t'es obligé. Et c'est aussi toute la gestion de l'image publique. Je tiens à vous dire que dans le cas de notre discussion de ce matin, on avait reçu un courriel d'Imperial Tobacco, une des trois compagnies concernées, qui nous avait proposé un porte-parole. Puis ça, c'est important de le dire. Nous, on voulait donner la parole au porte-parole d'Imperial Tobacco. Pour nous, c'était important d'avoir une compagnie de tabac qui vienne parce qu'on les entend jamais. Et moi, je trouvais que c'était une bonne idée, puis l'équipe aussi. Et Normand Jem a essayé donc de les contacter après leur proposition. Ils sont offerts. Là, puis après ça, on les appelle en disant « Ben oui, on veut vous donner la parole. » Non, finalement, ça ne nous tente plus. Là, ce matin, donc, vous n'entendrez pas le porte-parole d'Imperial Tobacco. Il ne veut plus nous parler. Ils ne sont juste plus disponibles pour les entrevues. Pourquoi? Ben, c'est pas grave. On a bien beaucoup de monde qui veulent intervenir là-dessus. En commençant par vous, Denis. Bonjour.
Bonjour, ça va?
Ça va très bien, vous?
Moi, j'ai tout ce qu'il faut pour arriver à aller dans le recours, sauf la date. Moi, j'ai commencé à fumer à 15 ans.
Oui.
Puis j'ai fumé au moins 180 000 cigarettes. Moi.
OK.
Puis j'ai un cancer de la gorge qui s'est déclaré en 2014, qui a récidivé en 2015. Puis, à cause qu'il est en 2014, j'ai pas de droit au recours.
Non, c'est ça.
Je comprends pas pourquoi.
En écoutant votre histoire, je me dis, oh non, j'espérais que vous me disiez avant mars 2012, mais non, vous êtes en 2014. Et ça me permet, ouais. Denis, d'abord, laissez-moi vous dire à quel point je suis désolée pour vous, puis que je compatis tellement avec ce que vous vivez. Mais il y a des règles, puis je me les suis fait expliquer à nouveau pendant la pause, entre autres par mes invités, Mario Bugeaud du Conseil québécois sur le tabac et la santé, Philippe Trudel, qui donc gère ce recours collectif chez Trudel, Johnston et L'Espérance. Et là-dessus, Philippe, vous dites, il faut que ça soit reçu, ce diagnostic de cancer. Ça prend un des trois cancers, gorge, emphysème, poumon. Il faut l'avoir reçu, le diagnostic, avant mars 2012, c'est bien ça?
Oui, c'est exact. Puis la raison pour laquelle il a fallu mettre une date butoir...
Ah oui, parce que là, Denis
2012,
comprend pas là, pourquoi il peut pas.
C'est le début du procès. Et puis quand on va à un procès, on peut pas faire une preuve pour l'avenir. On la connaît pas, l'avenir. Alors il fallait, à partir d'un certain moment, dire, ben nous, on fait une preuve pour les gens qui, au moment où on commence le procès, ont eu un diagnostic. Ça aurait pas été possible d'évaluer le nombre de diagnostics dans le futur. Alors, c'est extrêmement choquant et c'est dommage.
Oui.
On n'avait pas le choix de procéder de cette façon-là pour être capable de faire la preuve de combien de personnes sont dans le groupe. Les 100 000 personnes qui sont dans le groupe, on l'a été capable de l'estimer à partir, évidemment, de données à partir du registre des cancers pour le passer.
Question, seriez-vous capable de... Est-ce que ça serait une bonne idée de dire, je ne sais pas si c'est faisable ou pas, là, mais est-ce qu'on peut repartir un recours collectif maintenant, considérant la jurisprudence de celui-ci?
ça serait possible.
Et qui inclurait, Denis, et tous ceux qui m'écrivent en ce moment, puis qui disent, ben moi, c'est 2014, 2015, 2017. Il y a plein de gens là, qui, dans les dernières années, ont reçu le diagnostic, comme le père de Sylvain là, qu'on a justement en ce moment. Merci, Denis. Bonjour.
Bonjour, madame.
Sylvain, oui, on vous écoute.
Ça, ben, c'est exactement le même problème pour mon père, qui est né en 42, qui a fumé pendant toute sa vie, au-dessus de 85 000 cigarettes,
ouais.
Qui a un cancer de la gorge qui l'empêche de vivre. Il est en rémission présentement, puis à cause d'une date, puis je comprends, là, je viens de comprendre le monsieur à côté de vous qui a expliqué ouais. le principe, mais mm-hmm. je me dis que c'est complètement pas juste. Vraiment pas juste pour lui, puis pour tous les autres aussi. Là.
Et Sylvain, votre père, il a eu le diagnostic à quel moment, votre père, Sylvain?
En 2015, madame.
2015.
Puis il a fumé toute sa vie, là. Il a essayé autant comme autant d'arrêter de fumer, mais avec les cochonneries qu'il y a dans la cigarette, il n'a jamais été capable d'arrêter.
Ouais. Fumez-vous, vous?
Puis, non, absolument pas, madame.
Ouais. C'est
j'ai
fâchant.
Fumé, mais j'ai réussi à arrêter, par exemple. Tu sais.
Ouais. Ah oui, mais vous êtes bon, vous êtes bon.
Peut-être que votre avocat à côté de vous pourrait partir un autre recours collectif qui pourrait aller, mettons, en 2020, je ne sais pas, ou en 2019 au moins. Là.
Voilà, merci Sylvain.
Il y aurait beaucoup de gens, au même le même montant probablement.
Ouais.
Puis sur le 17 milliards et plus, peut-être qu'il y aurait des chances d'avoir une partie pour ces gens-là aussi.
Philippe Trudel, là-dessus, parce que Sylvain est d'accord avec ma proposition de repartir d'autres recours collectifs basés sur le premier que vous veniez de gagner en théorie.
Oui, en théorie, ça serait possible. En pratique, ça serait très difficile. Parce Pourquoi? Que une des conclusions de la Cour d'appel, mm-hmm. C'est qu'à partir d'un certain moment donné, il y a une connaissance suffisante des risques. Et quand un fumeur a une connaissance des risques, c'est un moyen de défense pour les compagnies de tabac. Autrement dit, les gens prennent une décision éclairée avec toute l'information nécessaire. Bien, ils peuvent pas. C'est la théorie de l'acceptation des risques.
Mais ça, est-ce que ça veut dire que, par exemple, à partir du moment où vous avez lancé votre recours collectif, donc en... là, ça remonte à...
En 1998...
Le public québécois aurait dû considérer que, comme il y avait ce recours collectif, ouais. les risques exposés, il les connaissait, donc il aurait dû arrêter de fumer là. Donc, en 2015, c'est de ta faute?
Bien, c'est pas de ta faute, mais ce que les tribunaux ont dit, c'est que à partir de 1980, les risques de cancer du poumon, par exemple, étaient généralement connus. Et donc, il y avait une connaissance, ce moyen de défense-là était ouvert aux compagnies de tabac. Pour la dépendance...
1980?
Oui. Pour la dépendance, le juge Reardon a décidé que c'était en 1996. Souvenez-vous, les premiers avertissements sur les ouais. paquets de cigarettes ouais. de Santé Canada, c'était 94. Le juge Reardon a dit que ça a pris 2 ans avant de percoler puis de se rendre dans le public. Donc, je mets 96. La Cour d'appel vient de dire... le juge Reardon a été sévère de dire que les gens avaient assez d'informations ouais. en 1980, surtout à cause de la dépendance. Parce qu'une fois que si tu connais pas le risque de la dépendance, quand tu as commencé à fumer, ben qu'est-ce que tu veux faire? Tu l'as pas l'information. Il fallait que tu l'aies avant d'être dépendant.
Dans le cas de Sylvain puis de son père, là, il oui. dit son père fumait, là, il est né en 1942, c'est ça? Où il avait oui. Donc, bon, c'est un monsieur là, qui a fumé toute sa vie. Là.
Oui.
Donc, probablement que c'était avant 1980 même.
Oui, et c'est encore le... Et,
donc, après, on a raison la notion de dire qu'il y a une certaine
injustice, parce oui. que la période de latence est très, très longue dans le cas du tabagisme.
Voilà.
Alors, tu peux fumer, puis ton cancer va se développer 15, 20, 30 ans plus tard. Mm. Et malheureusement, pour les raisons que j'ai exprimées, puis c'est bête comme ça, c'est qu'à un moment donné, il faut cristalliser la situation, puis elle a été cristallisée au début du procès.
Ouais.
Alors, il y a énormément de gens dont le cancer a été déclaré après mars 2012 qui ont fumé pendant la période du recours collectif, mais il fallait de façon arbitraire fixer une date. On n'avait pas le choix.
On revient tout de suite après avec les commentaires de nos auditeurs. Vous pouvez intervenir. Dites-moi si vous êtes dans ce fameux recours collectif, si vous êtes couvert. Si vous ne l'êtes pas, on veut entendre aussi votre opinion là-dessus. Est-ce que vous pensez que les compagnies de tabac vont finir par payer parce qu'elles sont bonnes pour faire durer le temps aussi? Il y a toute la notion aussi de dépendance qui est reliée à la cigarette. Et je sais que vous êtes nombreux à vouloir essayer d'arrêter là, parmi les 17-18% de Québécois qui fument encore. Il y en a certainement une grande partie là, qui essaye régulièrement. Puis c'est pas évident parce que toujours autant de produits dedans qui font en sorte que vous développez cette dépendance. 514-790-9850. À tout de suite. On parle à Sylvie, dont la mère fait partie de ce fameux recours collectif contre les compagnies de tabac. Trois compagnies qui sont concernées. Et il y en a deux d'entre elles qui ont fait savoir qu'elles voulaient demander la permission d'en appeler. Donc, est-ce que la Cour suprême va les entendre finalement? On pourrait décider aussi de dire, ben non, ça suffit. Hein. C'est une possibilité, Mario Bugeaud, là, que la Cour suprême dise, on veut pas vous entendre. On vous a assez entendu, on veut plus rien savoir.
Oui, tout à fait.
Est-ce que c'est plausible?
Oui, d'autant plus que les deux jugements, celui de la Cour supérieure et ce qui a été reconfirmé en cour d'appel, donc ça fait 6 juges au Québec, dans le fond, qui s'entendent pour dire que les compagnies ont menti et avaient une responsabilité, puis qu'elles sont condamnées en vertu de ça. Donc, que décidera la Cour suprême sur cette demande? Parce que c'est vraiment ils doivent demander la permission d'en appeler avant d'en appeler comme tel. Donc, c'est à elle de décider, mais c'est pas impossible qu'elle refuse.
Sylvie, bonjour. Votre mère donc fait partie de ce recours?
Oui.
Oui, oui, on vous écoute là-dessus.
Oui, bien, est-ce que vous m'entendez?
On vous entend très bien, Sylvie, oui, tout à fait, oui. Allez-y.
Merci. Oui, bien, merci de nous donner l'occasion de s'exprimer sur le sujet. En parfois, ma petite sœur est avec moi dans l'auto, là, puis on est trois sœurs qu'on a perdu notre maman. Elle a eu un diagnostic en 2010 d'un cancer du poumon à petite cellule qui est quand même assez rare. C'est 5% environ du cancer du poumon et c'est un cancer qui est extrêmement agressif. Et ma mère avait fumé là, peut-être fin de l'adolescence jusque dans les années 80.
Donc votre maman est décédée là. Je suis désolée.
Oui. Elle est décédée en 2011. Alors okay. Moi, quand on a vu le recours collectif, on a vu qu'elle remplissait toutes les conditions. On a décidé d'inscrire au nom de la succession finalement là.
Ah, d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent cette question-là, justement. Il y a des gens qui me disent, ben moi, mon père, entre autres Patrice, son père est décédé en novembre 2012,
C'est le diagnostic, mais il fallait c'est pas le décès.
OK, diagnostiqué en septembre 2012. Ça marche pas, si vous m'avez dit mars 2012,
non,
vous m'avez dit.
Non, ça marche pas.
Il peut pas être dedans, son père. Mais il dit qu'il respectait toutes les autres conditions. C'est ça l'affaire, là, Sylvie. Hein,
oui.
Est-ce que vous trouvez que c'est rigide? Vous comprenez l'espèce de cadre obligatoire, selon Maître Trudel, de ce recours collectif? C'est un peu comme ça que ça marche, malheureusement, mais ça en laisse un peu certains sur la voie d'accotement.
Oui, bien sûr, je comprends. À un moment donné, il faut mettre une limite, une frontière. C'est pour ça que quand on a vu le recours collectif, on a tout de suite inscrit à notre mère, qui, elle, avait été diagnostiquée en septembre 2010. Et ça a été une maladie assez difficile, là, avec des traitements aussi difficiles que la maladie, probablement.
Ouais.
Je suis pas encore convaincue que les cigarettiers vont payer. Je pense qu'ils vont essayer d'aller le plus loin possible sans payer.
Ah ouais. Êtes-vous, comment vous, avec vos sœurs, là, dans la voiture en ce moment, quel est votre état d'esprit par rapport à tout ça? Moi, j'imagine que vous dites, hey, là, ça va faire, là, puis tu sais. C'est sur la durée, c'est sûr qu'il y a des gens qui finissent par passer l'éponge, puis dire, s'en...
Mais voyez-vous, mon père est encore vivant, il est au courant de notre démarche qu'on a fait, là. Il était d'accord, mais d'un autre côté, il dit, ça ramènera pas votre mère, là, tu sais. Donc,
ouais.
pour lui, c'est difficile aussi, là, tu sais. Mais on a pris quand même, je me suis dit, ça existe, on va le faire. Ce que je me demandais, c'est comment on va prouver tout ce qu'ils demandent. Par exemple, le nombre de cigarettes et tout. Moi, j'ai commencé à regrouper des photos de ma mère datant des années 60 jusque dans les années 80 où on la voit avec une cigarette.
Voilà.
Donc, je me suis dit, ça peut aider. J'ai toutes sortes de documents là, aussi.
Et votre mère aurait fumé, vous dites... parce que là, on évalue 87 600 cigarettes fumées dans la vie. Donc, on dit que c'est 20 cigarettes par jour pendant 12 ans, mais ça peut être quelqu'un qui fume 2 paquets par jour. Ça fait 6 ans. Dans le fond, c'est le nombre de cigarettes qui compte, de ce que je comprends.
Oui. Moi, je peux pas vous dire le nombre de cigarettes parce que j'étais jeune, hein, mais j'imagine que si elle a fumé des années... comme je dis, j'ai des photos en 62 jusque dans les années 80.
Mm-hmm.
Donc, au moins 1 à 2 paquets par jour, ma sœur me dit.
Eh bon, on salue votre sœur, on vous salue, puis on vous dit bon courage. On va répondre à votre question quand même, Maître Trudel. Sur ça, c'est intéressant d'expliquer le fameux 87 600 cigarettes fumées. Quel genre de preuves les gens qui font partie du recours collectif là doivent-elles présenter? Quel genre de preuves vous avez, vous, pour faire valoir le point de vos clients?
Ben, il y a diverses méthodes de présenter cette preuve-là. C'est le juge Reardon. On va retourner le voir éventuellement, puis on va lui dire qu'est-ce que les gens doivent amener ou qu'est-ce qu'ils doivent faire pour démontrer qu'ils sont à l'intérieur du groupe. Nous, ce qu'on va suggérer sûrement, c'est que au niveau du diagnostic, c'est facile. On a les données en ayant accès au registre des cancers avec le simple numéro d'assurance maladie. On va être capable de confirmer le diagnostic, la date du diagnostic. Les gens n'auront pas de démarche en principe à faire. Pour la consommation, comme dans bien des recours collectifs, c'est une déclaration solennelle en disant quelqu'un qui va dire, ben moi, par exemple, dans le cas de votre mère, elle a commencé à fumer en telle année, elle fumait en général tant de cigarettes par jour et elle a cessé ou elle a jamais arrêté jusqu'à sa mort et on va faire le calcul. Alors, c'est une déclaration. Il y a différents autres moyens pour vérifier ça. C'est le dossier médical. Les médecins vont dire si la personne consomme des cigarettes puis habituellement vont noter le nombre de cigarettes de consommation quotidienne. C'est une autre façon, mais on ne veut pas aller là parce que c'est compliqué.
Ça va chercher. Être long?
Oui. Alors, nous, ce qu'on va suggérer, c'est sûr que la déclaration de la personne, normalement, est suffisante. On se fie à les gens de son bon.
Mais dans la plupart, dans la moyenne des recours collectifs, est-ce que ça, c'est suffisant, une déclaration solennelle?
Oui, tout à fait. Dans beaucoup de recours, des
on
fois...
On n'est pas obligé d'avoir des photos, pas obligé d'avoir...
Non. Certaines fois, on exige plus pour d'autres raisons, mais souvent, la déclaration solennelle suffit.
Est-ce que les compagnies vont dire, attendez, là, telle personne, là, nous, on n'est pas sûr qu'elle ait fumé autant de temps, puis elle n'a pas. Elle a fumé 85 200 cigarettes, pas 87 600. Est-ce qu'il peut y avoir ce genre d'ostinage?
Elles vont sûrement essayer de mettre des bâtons dans les roues du processus, mais nous, on a confiance que ça va rouler rondement parce qu'elles n'ont pas vraiment d'intérêt. La condamnation est là et c'est juste une question de distribuer l'argent. Alors, quels intérêts ont-elles à s'opposer à ce que les gens reçoivent leur chèque alors que ça ne changera rien au niveau de la condamnation?
Vous voulez dire en termes de montant, ça ne changera pas le montant?
Absolument pas, parce que le montant qui a été établi, on n'aura pas un taux de réclamation de 100%. Alors, il va rester de l'argent éventuellement après le processus.
Et c'est pour ça que vous voulez en parler d'ailleurs publiquement, parce que vous dites aux gens qui répondraient aux critères du recours de se faire connaître. Vous n'avez pas le nom de tout le monde. Vous avez évalué qu'il y a 100 000 Québécois qui sont touchés, mais il faut que les gens vous appellent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire partie du recours?
C'est pas nécessaire de le faire maintenant. Il va y avoir des avis éventuellement, mais on recommande aux gens de s'inscrire dès maintenant pour prendre de l'avance. Nous, il y a un recours, il y a un site qui est où les gens peuvent s'inscrire, c'est recourstabac.com. Et pour les gens qui n'ont pas accès à Internet, ils peuvent appeler à notre cabinet. Vous pourrez mettre le numéro du cabinet. On a des lignes, il y a des gens qui vont les aider
c'est
à remplir les formulaires.
C'est quoi le numéro? Vous voulez le dire, le numéro?
C'est le 871-8800.
871-8800. Vous allez avoir pas mal d'appels.
Les lignes téléphoniques ont déjà sont super engorgées. Mais que les gens laissent un message, puis il y a des gens, on va les rappeler dans un certain nombre de jours.
Judith est avec nous. Bonjour, Judith.
Bonjour. Je tiens à vous féliciter tout d'abord pour le sujet d'aujourd'hui, parce que je sais que ça touche grandement de personnes. Mm-hmm. Moi, mon père est décédé en 2016 suite à un cancer de la gorge, cancer du poumon. Il avait été diagnostiqué, je crois, en 2009 ou en 2010. Je ne connais pas exactement l'année, puisque j'étais une longue période sans parler à mon père. Mm-hmm. Mais c'était quelque chose de très difficile, retraite précoce, très tôt, et très difficile de le voir mourir comme ça, plus capable de manger, plus capable de
respirer sans
de
doute
respirer.
Aussi.
Mais, ouais, il y avait les bonbonnes d'oxygène de 24 heures sur 24, c'était très, très, très pénible en fauteuil roulant, c'était très difficile, une mort très difficile, demander l'aide à mourir pour pouvoir mourir paisiblement.
Quel âge avait-il?
Il avait 70 ans.
Ce qui n'est pas vieux aujourd'hui, là, 70
non,
ans.
Non,
c'est pas vieux.
C'est pas vieux. Puis je l'ai vu se détériorer rapidement. Il devait épaissir son café pour boire, manger du yogourt plus épais. Sa nourriture, ça devait être empuré. Il n'y avait plus de dents dans la bouche. Cancer de la mâchoire par la suite.
Cancer de la mâchoire en plus?
Oui. Il était obligé de se faire arracher toutes les dents dû au cancer. Et je pense qu'il y avait eu de la chimio ou des affaires de... C'était très pénible. Et c'est ça, je voulais savoir de quelle façon doit-on procéder pour... Pour les recours collectifs.
Le diagnostic, votre père l'a reçu quand? Est-ce que ça a été avant mars 2012? Parce que c'est vraiment
que
la date.
Oui, mais je pense que c'était en 2009. Je ne suis pas certaine entre 2008 et 2010, là, mais il faudrait que je vérifie auprès de l'hôpital où il y avait eu son...
Oui, vérifiez. En tout cas, là. Si c'est 2010, vous êtes clairement dedans parce que vous avez deux des trois cancers là, qui sont sur la liste comme prérequis, si on peut dire ça comme
ouais,
ça.
Oui, c'est ça.
Donc, à ce moment-là, recourstabac.com, Judith... C'est la meilleure façon de le savoir. Puis il y a des avocats qui pourront bien sûr revoir le dossier de votre père avec vous. Je pense que c'est ça qu'on peut dire, hein, Maître Trudel.
Oui, tout à fait.
Au cas de Judith, là, c'est affreux ce qu'elle nous décrit, là, ce que son père a vécu.
Et on peut... C'est familier, malheureusement, à mes oreilles, parce qu'on a dû faire la preuve des souffrances que les gens...
Ouais.
Pour avoir des dommages moraux, de voir à travers quoi les gens passent quand ils ont un cancer de la gorge, un cancer du poumon, c'est atroce. C'est atroce et c'est très souffrant. Et on ne souhaite pas ça à personne. On souhaite à personne d'être dans notre groupe.
Aujourd'hui, là, les compagnies de tabac sont-elles un peu compatissantes? Est-ce qu'il y a une certaine compréhension puis même un certain malaise à dire, écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit, un patron, là, on sait qu'en général, quand il y a des accusations, les patrons sont jamais là, sont jamais au courant de rien. C'est magnifique. Ils étaient boss, mais ils savent pas ce qui se passait. Est-ce qu'il y en a encore qui disent, on le savait pas, est-ce qu'ils s'excusent, au moins minimalement?
Absolument pas. On s'excuse pas parce que ça serait reconnaître qu'ils sont responsables. Au contraire, on dit que si les fumeurs n'ont qu'eux-mêmes à blâmer.
C'est ça qu'on dit?
Oui, parce qu'une fois que tu connais, t'as juste à arrêter. Autrement dit, on t'a poussé dans un piège, puis t'es pas capable de sortir du piège, puis c'est ta faute. C'est pas de ma faute, c'est moi qui t'ai poussé dans le piège, mais c'est ta faute si t'es pas capable d'en sortir. Et c'est très cynique. Et il n'y a jamais eu d'excuses, il n'y a jamais eu de reconnaissance de quoi que ce soit qu'elles ont causé cette hécatombe-là au niveau de la santé publique. Elles regardent ailleurs et elles empochent leur profit.
Mario?
Moi, j'ajouterais à ça qu'elles n'ont vraiment aucune sensibilité envers les victimes de leurs propres produits. C'est ça qui est le pire, en fait, parce que ces gens-là ont consommé leurs produits pendant des années et les compagnies avaient les informer adéquatement. Elles ne l'ont pas fait. Maintenant, ces gens-là sont malades. Beaucoup en décèdent très rapidement et les compagnies n'ont aucun remords. Ils sentent aucune compassion envers leurs victimes. C'est absolument épouvantable.
Parce que là, on ne peut même pas douter qu'elle le savait ou qu'elle le savait pas. Ça a été... C'est clair, là, ça. Là.
C'est clair, clair. Et
je sais que vous êtes du côté des victimes, là, puis on a tendance à vouloir l'être, mais c'est un fait, ça. C'est pas débattu. Elle le savait. Elle savait ce qu'il y avait dedans. Elle savait que ça créait une dépendance et que ça créait des problèmes de santé majeurs.
Et oui, dans les années 80, oui, elle savait, absolument. Sans aucun doute, ça a été... affirmé, réaffirmé par les tribunaux avec une preuve écrasante.
Donc, la moindre des choses, de s'excuser.
Je vous parie qu'elles ne le feront jamais.
Même, elles vont faire un chèque, puis elles vont finir par jamais dire « désolé ».
Oui, elles vont dire « c'est pas notre faute, les gens le savaient, c'est de la faute des fumeurs ».
Ouais, juste pour ça, si tu fumes, arrête. Hein? On a envie de dire ça. On revient tout de suite après la pause. Puis là, on va donner la parole aussi à ceux qui trouvent que ce recours collectif-là, franchement, devrait pas avoir lieu parce qu'après tout, c'est pas faux que c'est un peu la faute des fumeurs, des gens qui fument. On l'a dit tout à l'heure, les risques, on les connaît depuis 1980. On sait que ça crée de la dépendance officielle depuis 1996. Donc, tous ceux qui ont commencé à fumer étaient un peu au courant de tout ça. Il y a des gens qui font des parallèles avec l'alcool. Quelqu'un m'écrit, mais là, on va-tu demander aux compagnies qui vendent de l'alcool, on va-tu partir un recours collectif pour tous ceux et celles qui ont développé un cancer du foie? Lise, c'est un peu ce que vous dites, vous comprenez pas ce recours collectif?
Non, absolument pas. Parce que premièrement, les cigarettiers, là, ils ont un permis fédéral pour faire ces cigarettes-là. Alors, le gouvernement donne le permis, ramasse les taxes. Les fumeurs ont payé le stade olympique puis plein de choses, premièrement. Deuxièmement, les familles qui veulent embarquer dans le recours collectif parce qu'ils ont perdu un père ou une mère, moi, je me dis, là, cette personne-là, elle a vécu comme elle voulait. Vivre et laisser vivre, là. On peut-tu essayer de comprendre cette phrase-là? Qu'est-ce que ça va leur donner de recevoir un montant d'argent quand papa ou maman sont partis? Ils sont partis. Alors, embarquer dans le recours collectif, là, c'est quoi? C'est d'avoir un montant d'argent parce que son père ou sa mère est morte? Ben non, c'est complètement stupide. Moi, là, quand j'ai perdu ma mère, là, pour une autre raison, une autre maladie, j'ai pas eu droit à un montant d'argent. C'est complètement ridicule, d'après moi. Ouais.
Merci, Lise. Il y a Mario Bugeaud qui va répondre à ça du Conseil québécois sur le tabac et la santé. Mario Bugeaud?
Oui, en fait...
C'est intéressant, le point de vue de Lise
aussi.
Oui,
c'est intéressant, puis il y a beaucoup de gens qui pensent ça dans la population, mais en même temps, la différence qu'il faut constater, c'est que le tabac tue un fumeur sur deux. Puis dans le jugement de la Cour d'appel, ce que la Cour dit, c'est que les cigarettes, c'est un produit défectueux.
OK, ben pourquoi on en vend d'abord?
Ben,
on peut-tu être conséquent? On va dire à Santé Canada de mettre ça illégal. On va dire au gouvernement, arrêtez de percevoir des taxes là-dessus. Puis on n'en vend plus. C'est le point final.
En fait, ce qu'il faut arriver à faire, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont dépendants du produit, puis si on arrêtait d'en vendre demain matin pour les compagnies de tabac, c'est le marché noir qui se mettrait en vente. Donc c'est.
Ben, le marché noir fonctionne très bien, là.
Ben en fait, il y en a beaucoup moins de cigarettes de contrebande qu'il y en a eu il y a quelques années, puis c'est ce qu'il faut viser parce que c'est tout le crime organisé, puis c'est tout le tissu social que ça affecte également, là, le marché noir. C'est pas juste de dire il y a du marché noir puis il faut faire avec. Il y a toute une responsabilité en lien avec ça. Donc il faut donner un cadre très très serré.
Mais vous dites qu'on pourrait pas arrêter demain matin d'en vendre, c'est ça que vous dites?
Ben en fait, ça serait pas
parce
la solution.
Parce qu'il y a 18% des Québécois qui en fument.
Optimale fait. Parce que ça réglerait pas le problème. Les gens trouveraient d'autres moyens.
Mais il faut qu'on aille là pareil, non?
Oui,
est-ce qu'on peut dire aux gens, mais bref, prévenons les gens. Dans 2 ans, on vend plus de cigarettes.
Oui, moi, je suis tout à fait d'avis qu'on peut arriver à mettre en place une stratégie qui ferait en sorte qu'il y ait une réduction graduelle et assez rapide
de la possibilité de vendre. Parce qu'à un moment donné, il faut être conséquent aussi, ce qu'on dit. Là.
Oui.
Hey, juste pour le fun, comme ça, puis quelques auditeurs posent la question, mais chez Trudell Johnson, vous allez faire combien avec le recours collectif? Vous prenez quoi, 10, 20 %, 30
%? On ne le sait pas encore. On espère être bien payé. Il y a une des conventions qui sont signées au niveau des honoraires, mais c'est le juge de première instance qui décide la rémunération, donc ça va être dans quelques années.
Merci
on espère
beaucoup.
Être bien payé.
Merci, j'imagine. Mm-hmm. Hein? Je ne suis pas inquiète pour vous. Merci beaucoup à tous
Merci
les deux.
Merci à vous.